Dans 5 minutes, quel plaisir de la retrouver. Sylvie Cyr, bonjour.
Bonjour, Jocelyne.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui. Sylvie, qui est très sensibilisée à un phénomène, et tu vas nous en parler aujourd'hui. Le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation aux allergies alimentaires.
Effectivement, Jocelyne.
Tu t'y intéresses depuis quelques années. Pourquoi?
Ah, je vous dirais 24 ans, parce que j'ai 2 enfants qui souffrent et qui ont souffert d'allergies alimentaires.
Et il y a 24 ans, il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus.
Non, non, pas du tout. On était dans les prémices, mais en tout cas, si je peux dire ça comme ça, là, surtout au niveau scolaire, ces choses-là, il y a bien des gens qui pensaient que c'était dans leur tête, en fait, que c'était psychosomatique, c'était difficile de faire bouger les choses à l'école aussi. Ouais.
Est-ce que je me fais une idée, mais est-ce qu'il y en a plus qu'avant?
Oui, oui. Le ministère de la Santé dit que de 1997 à 2008, il y a 20 % plus d'enfants en bas de 18 ans qui ont des allergies alimentaires.
Surtout les enfants?
C'est pas surtout les enfants, parce qu'il y a quand même 2 % de la population adulte qui vont conserver leurs allergies alimentaires. Les allergies alimentaires, là, je vous dirais, en partant de 5 ans, il y a comme 95 % des enfants qui avaient des allergies alimentaires qui vont les perdre, comme aux produits laitiers, entre autres.
Okay.
Ceux qui sont allergiques aux arachides, ça va être plus compliqué, là. Ça, c'est notre 2 % d'adultes qui conservent les allergies, mais ça peut être pas nécessairement aux arachides aussi. C'est une qui va occasionner le plus de chocs anaphylactiques, oui, mais il y en a qui sont allergiques aux fruits de mer, il y en a qui sont allergiques aux poissons, il y en a qui... Bon.
Est-ce qu'une allergie se développe seulement dans la petite enfance ou plus tard, n'importe quand?
Elle peut se développer n'importe quand, même qu'ils ont remarqué une recrudescence des allergies aussi chez l'adulte. On parle de 20 % plus là, qu'auparavant d'allergies chez l'adulte. En fait, l'Organisation mondiale de la santé classe les allergies au 4e rang des pathologies derrière le cancer, les maladies cardiovasculaires et le sida. Fait que sur une échelle mondiale, l'allergie est quand même présente. Là. On se retrouve, on n'a même pas fini les 5 doigts de la main. Au Québec, il y a 300 000 personnes qui souffrent d'allergies alimentaires. C'est beaucoup, moi, je trouve. 40 000 enfants. 40 000 enfants, là, c'est 5 000 personnes de plus que toute la population de Sorel-Tracy ensemble. Pour le Québec, c'est beaucoup de monde, là.
Ça veut dire que la vie de la famille, de la personne allergique, de la famille et de l'entourage est un peu chamboulée.
Totalement chamboulée. Totalement chamboulée. C'est sûr qu'au départ, entre 0 puis jusqu'à temps que les enfants rentrent à la garderie ou jusqu'à temps que les enfants rentrent à l'école.
On supervise,
on encadre ça. Ben, en fait, il y a 2 écoles de pensée où vous éliminez complètement l'allergène dans la maison. Ou, ben là, on l'en mange, mais c'est surveillé. Bon, il y a des petites techniques.
Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'aimerais mieux ne pas avoir aucun allergène dans ma maison. C'est beaucoup moins stressant. C'est sûr que dès le départ à l'épicerie, c'est pas parce qu'on a pris une fois de la soupe aux tomates Elmer qui avait pas d'allergène dedans pour notre enfant qu'on peut toujours la prendre. Chaque fois, il faut relire les ingrédients. Parce que les recettes peuvent changer, parce que l'usine où on l'a fait peut changer aussi. Donc, on est toujours en mode surveillance. Puis, on s'entend qu'une allergie alimentaire, si elle est sévère chez notre enfant, là, ça peut causer la mort. Là, quand on parle de causer la mort, là, c'est comme la même chose pour quelqu'un qui est diagnostiqué de crise cardiaque. Puis, de l'autre côté, l'enfant qui fait des allergies alimentaires. Les deux peuvent mourir. Si on ne prend pas notre médicament lors d'une réaction ou lors d'une crise cardiaque, les deux, on peut mourir.
Je veux que tu m'en parles du médicament, sauf qu'avant, je veux que tu me dises la différence entre une allergie et une intolérance alimentaire.
Bien, il n'y a pas de problème. La réaction allergique, elle met en cause notre système immunitaire. C'est ce qui nous défend. Puis le corps, lui, il a l'impression que c'est très dangereux, fait qu'il se défend vraiment fort. L'intolérance alimentaire, c'est pas que ça sera pas fort comme symptôme, mais elle prend naissance dans notre système digestif. Fait que la personne, elle digère pas bien, elle peut vomir même en geste, pas, mais elle en mourra pas.
OK.
Elle peut être en diarrhée. Mais ça, tout se passe dans le système digestif. Puis, ça prend beaucoup de cet aliment-là versus une réaction allergique qui pourrait être microscopique. Un dixième d'arachide, il y a des enfants qui vont réagir à ça. Donc, les allergies de contact peuvent être en contact. Non, non, il y en a pour le poisson, juste l'odeur. Avec l'intolérance, c'est pas parce que ça sent le poisson que moi, je vais réagir, là. Puis la différence, la grosse différence, c'est que ce n'est pas une question de vie ou de mort.
L'intolérance.
Okay. Tandis que la réaction l'est.
OK. Tu m'as parlé, avant d'entrer en onde, de 8 aliments cibles.
Oui. En fait, il y a 93% il y a 8 aliments qui sont responsables de 93% des chocs anaphylactiques chez l'enfant. L'œuf, l'arachide, le lait, le soya, les noix, le poisson, les crustacés et le blé. Donc, ces 8-là englobent 93% des réactions de chocs anaphylactiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Tu sais, il y a des enfants qui sont allergiques aux fraises.
Okay.
Mais la grosse majorité des chocs anaphylactiques, c'est basé sur ces 8 aliments-là.
Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive?
Bien, en fait, il y a une étude qui est sortie l'an dernier, en collaboration avec l'Université McGill, entre autres. Le gouvernement, en tout cas, il était dans 5 hôpitaux canadiens, dont un hôpital du Québec. Il s'est fait sur 483 cas de réaction anaphylactique. Puis, il y a juste 41% de ces personnes-là qui sont arrivées à l'hôpital et qui avaient pris leur épipène. 41% des gens qui savent qu'ils sont allergiques, sévères, qui arrivent à l'hôpital, qui sont en choc anaphylactique et qui ont pensé prendre leur épipène.
Pourquoi? Comment ça se fait?
Bien, sur ce 483 personnes-là, il y en avait déjà un tiers qui ne l'avait même pas avec eux, l'épipène.
C'est de la négligence? C'est quoi?
Bien, je ne sais pas, mais c'est comme se dire peut-être « Ah, bien, ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi ça m'arriverait? » Okay. C'est ça. Tu sais, un petit peu la pensée magique. On l'a oublié. Je ne commencerai pas à traîner ça partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête, là. Mais en même temps, il faut réaliser que la moitié des gens avaient préféré prendre un antihistaminique.
OK.
Parce que antihistaminique, ça aide les allergies, c'est peut-être moins violent, là. Mais un antihistaminique, lors d'un choc anaphylactique, ça donne rien.
Mais comment on fait pour être certaine?
En fait, là, l'épipène pris pour rien, c'est pas grave.
OK.
Tandis qu'un antihistaminique pris à la place d'un épipène, ça fait qu'on est encore en danger.
Oh, oui.
Notre corps n'est pas protégé. Si dans les 10 premières minutes, on prend notre épipène, mm-hmm. Puis on se rend à l'hôpital.
C'est ce qu'il faut faire.
Hein? Oui, parce que notre corps, il est déjà moins en réaction parce que l'adrénaline a calmé le corps.
Mais il faut que quelqu'un aussi appelle le 911.
Ah, définitivement. Un choc anaphylactique, allergie alimentaire, là.
Ambulance,
hein. Je veux dire, ça m'est arrivé à ma fille l'automne dernier, oui, je l'ai déjà raconté ici. Puis dans l'auto, là, quand que, oups, il fallait qu'elle vomisse, puis que là, je savais, c'est pas la bonne place du tout. T'es au volant, faut que tu sois concentré, t'es obligé d'arrêter sur le bord. C'est pas la place. Puis dans l'ambulance, on a d'autres épipènes. Mm-hmm. Ils ont des mécanismes aussi pour nous aider à respirer. Fait que c'est pas une bonne idée de le faire en auto. J'aimerais ça finir juste avec les facteurs de risque. Selon plusieurs études, il n'y a pas de consensus dans le domaine scientifique. En fait, il y en a 4 des facteurs de risque. La génétique, les jumeaux, les vrais jumeaux identiques, ils vont avoir sensiblement les mêmes allergies versus des jumeaux qui ne sont pas identiques, qui vont avoir juste 34 % des chances d'être allergiques aux mêmes choses. Il y a l'environnement. Ils disent que avant la naissance du bébé, le tabagisme, l'asthme maternel, puis même le sexe du bébé. Si c'est un petit garçon, il y a plus de chances de faire des allergies.
Quelle chance!
Ouf, hein? En contrepartie, pour l'environnement, boire du lait entier, entrer en contact avec des animaux de la ferme, aller à la garderie, avoir un chien à la maison avant l'âge de 2 ans, ça protégerait l'enfant contre le développement de symptômes. Puis on dit aussi, on est trop dans l'hygiène, là. La preuve est faite que les poupons de moins de 6 mois, vivant sur une ferme, qui ont des animaux familiers, souffrent moins d'allergies.
Donc, c'est le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation aux allergies alimentaires. Il y a un site, on va fouiner, on s'informe, il faut vraiment s'informer.
Bien, sur Internet au Québec, il y a Allergie Québec, qui est un super bon site. Ouais. Il y a plein de livres.
Ton livre?
Bien, il y a mon livre pour les enfants, « Les allergies racontées aux enfants », avec Amy.
Merci, Sylvie. Ça a été un plaisir de te retrouver. Tu viens quand tu veux.
Merci beaucoup.
Salut, bye c'était bye. Sylvie Cyr.